loi théologie naturelle sur la création primordiale.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Demandons à l'Esprit Saint, Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre Dame est très sainte.
Priez-vous,
Saint Jean.
Priez-vous.
Excusez-moi du retard, mais ça vous a permis de contempler, alors c'est très bien. Alors nous allons continuer ce point de départ sur le problème de la création. Voir comment ce problème s'est posé d'abord dans les traditions religieuses. Alors il y a là toute une enquête que je vous laisse faire, je l'ai faite dans le temps, elle est très intéressante à faire. C'est bien évident que c'est très intéressant de voir que toutes les traditions religieuses se nouent autour du mythe de la création, l'origine de tout. Nous en avons des exemples qui ont une valeur tout à fait particulière pour nous au début de la Genèse. Mais ce serait très intéressant de lire les deux récits de la création au niveau proprement philosophique. J'ai le droit de le faire. Hein. Le philosophe a le droit de se servir de toutes les traditions religieuses en tant que philosophe. S'il est en même temps croyant, il sait très bien qu'il y a une double manière de lire ces textes. Il faut respecter cette double manière, ce n'est pas contradictoire. C'est tout simplement une double manière de lire ces textes. Je ne lis pas le début de la Genèse de la même façon en croyant et en philosophe. Je dirais même que c'est très important aujourd'hui de faire cette distinction. Parce que si on est philosophe, on comprend mieux ce que c'est que la foi. Si on n'est pas philosophe, au bout d'un certain temps, le croyant devient un petit philosophe. Alors tout le monde en perd, hein, parce qu'on n'est plus un philosophe et on n'est plus un grand croyant. Alors que je crois que le philosophe qui est vraiment philosophe et qui cherche la vérité permet au croyant de développer sa foi dans sa ligne propre et de montrer qu'il n'y a pas d'opposition. Alors c'est un des problèmes, hein, c'est pas le seul, mais c'est un des problèmes qui est particulièrement important de comprendre là le lien entre les mythes religieux, et j'appelle mythe religieux, voyez bien ce qu'on entend par mythe religieux. Ricoeur dit que le mythe implique un langage symbolique et un récit. Donc tout symbole n'est pas un mythe, mais tout mythe est un langage symbolique. Et qu'est-ce qu'ajoute le mythe au symbole ? Il ajoute un récit, c'est-à-dire un aspect génétique. C'est pour ça qu'ordinairement les mythes sont du côté de l'origine et de la fin. La fin de l'humanité, le début de l'humanité. Alors, il y a dans ce langage primitif, des mythes religieux, il y a quelque chose qui est très fondamental, qu'on ne doit jamais quitter du reste. On doit purifier les mythes religieux, et la philosophie est faite pour cette purification. Je crois que c'est vraiment la philosophie qui fait la purification. Purifier ne veut pas dire abandonner. Purifier veut dire essayer de comprendre ce qu'il y a d'authentiquement humain. L'homme a besoin de mythes. C'est absolument impossible autrement. Et quand il ne le reconnaît pas, c'est pire, parce qu'il en fait en croyant que c'est la vérité, et en oubliant que c'est des mythes. Alors qu'on a besoin d'avoir un enracinement affectif, poétique, sur ce que représentent l'origine et le terme. Étant donné que je n'ai pas l'expérience philosophique de l'origine, je n'ai pas l'expérience du terme. Alors, où je dis je ne connais rien, et pourtant j'ai besoin de connaître, j'ai un besoin, une soif de connaître. Alors à ce moment-là, les mythes religieux sont là comme une pierre d'attente. Et pour le terme, c'est la même chose. Ce sont des pierres d'attente. Ce n'est pas du tout la vérité, c'est du vraisemblable, c'est quelque chose qui porte toute une valeur traditionnelle et qui fait que des peuples ont vécu cela. Donc il y a toute une valeur humaine dans les mythes. Hein. Les mythes, c'est l'homme qui cherche l'absolu. La révélation, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Ce n'est pas du tout le même mouvement. Ce sont deux mouvements tout à fait différents et qu'il faut respecter. Dans le mythe religieux, c'est l'homme qui cherche. Et qui cherche les choses les plus profondes, les plus radicales, le point de départ. Vous avez le mythe de la création, le mythe de la formation du corps de l'homme et de la femme, vous avez le mythe de l'origine de la vie, et ainsi de suite. On comprend très bien. C'est toujours l'origine, le point de départ, et puis le terme. C'est intéressant parce que ça montre, vous voyez, que la philosophie comme telle, qui se veut absolue, se veut exhaustive, la philosophie ne sera jamais exhaustive. Elle ne peut pas. Alors elle peut avoir une connaissance sur l'homme, mais elle n'a pas une connaissance parfaite sur l'origine de l'homme. Elle n'a pas une connaissance parfaite sur ce qui achève, ce qui termine la vie de l'homme. Là, elle doit accepter qu'il y a une limite. Mais ça relativise la philosophie. Et alors, en relativisant la philosophie, ça permet à la philosophie d'être au service de l'homme. Parce que l'absolu, c'est l'homme, c'est pas la philosophie. Toute la différence avec les idéologies. Les idéologies, n'acceptant pas des mythes, mais étant un mythe non accepté, parce qu'au fond c'est ça les idéologies. Toutes les idéologies, ce sont des mythes, mais des mythes non acceptés comme mythes. Et on croit que c'est la vérité. Les idéologies se veulent synthétiques, veulent un système complet. Et alors, l'idéologie enferme l'homme dans une idéologie. Et l'homme devient relatif à l'idéologie. Vous voyez, c'est en regardant cette question des mythes religieux qu'on comprend le mieux toute la différence qui existe entre une idéologie et une vraie philosophie de l'homme. Parce que la vraie philosophie de l'homme respecte les mythes. C'est une donnée. C'est une donnée que je dois respecter. Alors évidemment, je n'en fais pas du tout, hein, je n'en fais pas du tout le logos philosophique. Je considère qu'il y a tout un abîme entre le mythe religieux et le logos philosophique. C'est bien évident, ce sont deux domaines tout à fait différents. Deux domaines tout à fait différents, c'est-à-dire deux domaines complémentaires, avec un langage différent, mais ces deux domaines s'appellent l'un l'autre. Parce que je sais que dans certains domaines, je ne peux pas donner le logos. Je ne peux pas donner un raisonnement philosophique. Je ne pourrai jamais donner un raisonnement philosophique sur l'origine de l'homme. Jamais. Je ne pourrai jamais donner un langage philosophique sur l'au-delà de cette vie. Je ne peux pas. Philosophiquement, je ne peux pas. On cherchera, venez, c'est ce qu'on cherche, hein, la vie au-delà de la vie, n'est-ce pas? Et les expériences que peuvent avoir certains, mais au fond, ce sont des mythes qu'on recrée. Ce sont des mythes qu'on recrée. Et on vous donne ça comme la réalité. Mais non, c'est un mythe, tout simplement. C'est un mythe parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que cette expérience que vous avez eue quand vous avez été au seuil de la mort? D'abord, est-ce que vous étiez vraiment au seuil de la mort, hein? Il faut franchir le seuil pour savoir que c'est le seuil. Tant qu'on ne l'a pas franchi, on ne sait pas que c'est le seuil. Hein, parce que ça peut aller encore plus loin. Bien, j'étais sur le bord de la mort. Ben, ouais, attention, attention, mais est-ce que vous êtes morte? Ah non, non. Alors, vous pouvez peut-être aller encore un peu plus loin. On ne sait pas. Pour connaître le seuil, il faut l'avoir franchi. Alors, on recrée des mythes, c'est très curieux ça, l'homme a besoin de ça, c'est absolument. Alors on recrée des mythes au point de vue technique, on recrée des mythes au point de vue scientifique, mais ce sont des mythes. Et c'est ça qu'on doit reconnaître, c'est que le langage scientifique et le langage philosophique a des limites. parce que la réalité est plus riche que le langage philosophique et que le langage scientifique. Et cette réalité est plus riche, et c'est pour cela que l'origine de cette humanité et le terme de cette humanité est toujours enveloppé du mythe. À ce point de vue-là, c'est très très intéressant quand il s'agit de la création, c'est pour ça que j'insiste, de bien regarder cela. Et si parmi vous il y en a qui s'intéressent à ça, c'est intéressant de faire cela, d'essayer de comprendre ce mythe de la création, ce besoin que nous avons. Alors pourquoi ce besoin du mythe de la création? Il faut toujours se demander pour ça, pourquoi ce besoin du mythe de la création? Pourquoi l'homme a-t-il besoin de retrouver sa source? S'il ne retrouve pas sa source, il est toujours un peu orphelin. Il y a multiples manières d'être orphelin, tu vois. L'orphelin, c'est celui qui ne connaît pas sa source, qui ne connaît pas ses pères, ses parents, donc qui ne connaît pas à partir de quoi il vient. Il est orphelin. On peut être orphelin au niveau de nos propres parents, on peut être orphelin par rapport à celui qui est source de notre âme spirituelle. On peut être orphelin par rapport au milieu dans lequel on est. Oui. Et au fond, c'est ça, être orphelin par rapport à la création. C'est cet appel de redécouvrir au moins quelque chose qui soit un palliatif momentané, qui soit quelque chose de vraisemblable sur lequel je peux au moins m'appuyer. Mais les mythes religieux, c'est un moment d'attente. Pas plus. Ça ne peut pas être plus. Et le philosophe sait que ça ne peut pas être plus. Et le philosophe va se demander la question, est-ce qu'il peut, par rapport à ces mythes religieux, essayer de pousser son investigation philosophique le plus loin possible pour voir si ces mythes vont disparaître ou pas disparaître. Et c'est comme ça que les mythes religieux posent le problème de la création. Donc les mythes contiennent le problème de la création. C'est en ce sens-là aussi qu'on peut dire que le mot création, comme le mot Dieu, comme le mot âme, ce sont des mots qui sont d'origine de tradition religieuse. Ce ne sont pas des mots philosophiques au sens propre. Ça, je crois qu'il faut bien le comprendre. Des tas de confusions proviennent de là. Et le mot création n'est pas premièrement un mot philosophique. Il est premièrement un mot de tradition religieuse, comme le mot âme. Ça ne veut pas dire que le philosophe ne doit pas l'employer, ça c'est autre chose. Le philosophe peut l'employer, et quand il l'emploie, il le définit par rapport à quelque chose qu'il a découvert lui-même. Alors à ce moment-là, il a le droit de prendre cette expression, qui est chargé d'une affectivité et qui est chargé de toute une tradition, il a le droit de prendre cela, et en la prenant, en la ramenant à une expression philosophique, il la purifie. Et le passage du mythe au logos, ce que Heidegger cherche tellement, parce que c'est tout à fait à l'ordre du jour, ça. Et c'est beau, du reste, c'est intéressant, parce que ça donne à la philosophie comme une ampleur dans un enracinement. La philosophie, quand elle est un peu décadente, elle est orpheline. Alors, elle crie comme un orphelin. Elle ne sait plus. Tandis qu'une philosophie qui est vraiment enracinée dans une tradition religieuse n'est pas orpheline. Elle est en attente de la découverte de ce qui est à l'origine. Donc, ce problème religieux de la création pose au philosophe le problème de l'origine. D'où vient notre univers? D'où vient l'homme? D'où vient la vie? C'est vraiment le problème de l'origine. Ce n'est pas le problème de la finalité. Hein. C'est le problème de l'origine. Le problème de la finalité, c'est au contraire ce vers quoi je vais. Alors ce serait les mythes eschatologiques. Les mythes eschatologiques qui sont les mythes de la fin, alors là, au contraire, c'est le problème de la finalité. Vous voyez, c'est curieux. Il y a deux causalités qui sont enveloppées de mythes, le point de vue de l'origine et le point de vue de la finalité. Alors, Il y a aussi, hein, les autres font toutes les causalités, puisque toutes les causalités sont des sources, on pourrait dire que toutes les causalités sont enveloppées d'un mythe, toutes. Le mythe de l'âme forme du corps, hein, chez Platon, la réminiscence. C'est un mythe pour essayer de comprendre le lien de l'âme et du corps. Mais une fois qu'on a découvert que l'âme, ce qu'on appelle l'âme, principe de vie, détermine le corps, à ce moment-là, le mythe disparaît. Le mythe disparaît pour celui qui a découvert. Hein. Il reste pour la plupart des hommes. Et on l'accepte pour la plupart des hommes. Et le philosophe aura justement ce souci de purifier les mythes pour la communication des autres. Le mythe le plus proche de la vérité, le plus vraisemblable. Parce qu'il sait très bien, en tant que philosophe, que tout le monde ne comprend pas le langage philosophique. Alors, il laissera exprès ses mythes pour la communication aux autres. Parce qu'il sait que c'est nécessaire. Donc, on va rechercher la question de l'origine. L'origine de notre univers, l'origine de la vie, l'origine de l'homme. Vous voyez comment ces problèmes sont toujours actuels. L'origine de la vie mono, il essaie de chercher. L'origine de notre monde d'aujourd'hui, on peut dire que tous les physiciens essaient de trouver l'origine. N'est-ce pas ? Voir le premier point de départ de notre univers. Ils essaient d'émettre des hypothèses. L'origine de l'homme et de la femme, on peut dire encore que c'est le point de vue biologique qui cherche. Donc, c'est les grands problèmes d'aujourd'hui. Hein. On n'a pas avancé beaucoup, vous savez, depuis les mythes religieux. Au sens rigoureux, on n'a pas avancé beaucoup. Parce qu'on croit que c'est scientifique, quand vous lisez Le hasard et la nécessité, on vous fait croire que c'est scientifique et c'est pas scientifique du tout. À un moment donné, on perd pédale, on l'avoue pas. Si on savait mieux ce que c'est que la science, d'une façon plus critique, on dirait, là, je ne peux plus rien dire. J'accepte les mythes. Ou j'en crée un, j'ai tout à fait le droit de créer un mythe d'ordre scientifique, mais si on crée un mythe, on doit le dire. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Alors, l'honnêteté intellectuelle est très très rare. Hein. Très très rare, parce qu'on aime mieux faire croire que... Alors, il faut savoir exactement jusqu'où on peut aller dans son raisonnement, jusqu'où on peut aller dans la découverte philosophique pour comprendre qu'il y a des limites. Des limites à la recherche. Ça ne veut pas dire que peut-être un jour on ira plus loin. Non, ça n'arrête pas la recherche. Mais le philosophe peut quand même essayer de comprendre que dans certains domaines, il ne pourra qu'inventer des mythes. Des mythes plus ou moins artistiques, des mythes plus ou moins religieux, des mythes plus ou moins techniques ou plus ou moins scientifiques. Alors ça, ce serait aussi très intéressant à voir, parce que c'est le signe des cultures, ça. La culture, au point de départ, est religieuse. C'est pour ça qu'on a des mythes religieux. Puis la culture devient philosophique. On a des mythes philosophiques, Platon. Platon, c'est le grand créateur des mythes philosophiques. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est des grands créateurs des mythes philosophiques. Puis on a des mythes au niveau scientifique. La science moderne. Et on peut avoir aussi des mythes au niveau technique. Mais c'est très très curieux de voir ça, parce que c'est l'origine des mythes, c'est le halo affectif autour des limites d'une connaissance humaine. Que cette connaissance soit poétique, que cette connaissance soit affective, religieuse, que cette connaissance soit proprement scientifique ou philosophique, les limites. Alors quand on les avoue, on crée un mythe. Quand on les avoue pas, on prolonge. Et on fait une erreur à ce moment-là. Créer un mythe est toujours permis. On a tous le droit de créer un mythe. Vous avez le droit de créer un mythe de la création. Tout à fait. Ordinairement, il vaut mieux prendre les grands mythes qui existent déjà, qui sont très poétiques, qui sont très beaux. Et il vaut mieux prendre ceux-là. On sait qu'ils existent. Et on essaie de les comprendre comme mythes. Alors, essayons de voir comment c'est fait ce passage de ce mythe de la création au problème philosophique de la création. Il y a un problème philosophique de la création. Alors, ce problème philosophique de la création, le premier qui l'a posé, qui l'a vraiment posé, c'est Platon avec le Timée. On peut dire que Platon avec le Timée pose le problème philosophique de la création. Avant Platon, c'est plutôt, vous voyez, cette recherche de ce qu'il y a de premier. C'est plutôt une recherche des causes et des principes. C'est beaucoup plus ça. Parce qu'alors là, on peut dire que toute la philosophie grecque, c'est une recherche des causes et des principes. On peut dire qu'Hésiode, lui, essaie de chercher l'origine des dieux et de préciser ce qu'il y a de premier. Mais au fond, ça reste quelque chose, surtout Hésiode, très mythique, sans beaucoup de critiques. Le premier, je crois, philosophe qui s'est vraiment posé le problème de la création, c'est Platon. Avec cette perspective qu'il a de voir le démiurge, celui qui est l'artisan de la création. Alors c'est là où le mythe demeure encore. Hein. Le démiurge, c'est encore un mythe. Hein. Mais c'est déjà un passage du mythe vers le logos, parce qu'on essaie de comprendre comment le démiurge, qui est divin, va façonner l'univers et va créer l'univers. Et on voit bien cette recherche philosophique qui commence dans le Timée. Le Timée est un très beau livre qu'il faut lire si on veut comprendre un peu Platon. Et si on veut comprendre le problème de la création, il faut lire le Timée. Le Timée a quand même une grandeur. Vous savez bien que tout le Timée commence par cette distinction de ce qui ne connaît pas d'origine et ce qui connaît l'origine. Alors ça c'est très significatif, hein. C'est la division première que donne Platon sur le problème justement de ce que représente le point de vue, si vous voulez, de la création. Il y a des choses, il y a des réalités qui, elles, sont éternelles, sont au-delà de la génération. Et il y a des réalités qui sont dans la Genesis. Et ça c'est la distinction première. C'est une vieille distinction grecque que Platon prend, mais à laquelle Platon va donner une nouvelle signification. C'est la vieille distinction qui est déjà chez Parménide, mais Parménide ne pose pas le problème de la création, mais elle est déjà chez Parménide, parce que Parménide pose l'être, ce qui est, et qui est au-delà du devenir, au-delà de l'engendrement, ce qui est nécessaire. Donc, il est toujours. Il est éternel. Et puis, la Genesis. Donc, cette distinction de ce qui est et de la Genesis est présente déjà en philosophie grecque, et Platon la prend. Il la prend pour être le point de départ de cette relation. Là, vous voyez la différence. Hein.
Pour Parménide, il est... Puis, le monde qui devient le devenir. Et il y a affirmation des deux, tout simplement, pas plus. C'est quand même énorme cette division parménide.
C'est la première division que le monde grec a reçue. Il est,
je suis dans le monde de la nécessité, et ici je suis dans le monde de la contingence.
C'est la première division qui est donnée à partir d'une révélation. On ne la critique pas, on la reçoit.
Jamais Parménide essaie de comprendre le lien qui existe entre les deux. Pour lui, il n'y a pas de lien.
Donc on pourrait dire que Parménide, il y a la négation absolue du problème de la création. À ce point de vue-là, Parménide est beaucoup moins respectueux des traditions religieuses que Platon. Parce que je ne peux pas, à partir d'une intuition profonde, même si elle est une révélation, il est et le devenir, ce qui devient la Genesis. La Genesis, dire qu'à partir de là, il n'y a pas de problème de la création. Il n'y a pas de passage entre les deux. Donc pour lui, pas de problème de la création. Ça, c'est l'absolu de Parménide. C'est intéressant, c'est l'absolu de Parménide. Ce sera cet absolu-là que Heidegger essaiera de reprendre. Parce que dans la perspective de Heidegger, il est bien évident qu'il n'y a pas de problème de la création. Alors vous retrouvez là, aux deux extrêmes de notre philosophie occidentale, deux positions très proches. Pour Heidegger, penser l'être. Et c'est suffisant. Je ne peux pas aller plus loin. Penser l'être. Se poser le problème de la relation de l'être et de la réalité des étants, c'est impossible. Il y a le néant entre nous. Et le néant est infranchissable. Donc je ne peux pas faire le passage entre les deux. Vous voyez, il y a deux. C'est intéressant parce que ça montre certaines positions philosophiques qui refusent le mythe de la création. Ou bien qu'ils considèrent, si vous voulez, comme un mythe, mais qui n'est pas chargé de vérité, qui n'est pas chargé d'intelligibilité. Et donc on ne peut pas essayer d'extraire Parménide et Heidegger. C'est curieux, parce que nous trouvons là devant deux problèmes qui sont très différents, c'est évident, mais qui ont la même conséquence. Parce que je mets un absolu sur l'être. C'est si je mets un absolu sur l'être que j'expérimente, je ne peux pas. Je ne peux pas considérer, alors, la Genesis, pour Parménide, ce n'est pas uniquement les apparences, c'est plus, mais je ne vois pas le lien. Alors, c'est vraiment Platon qui est le premier à essayer de poser le lien entre les deux. Il dépend bien de Parménide, mais la différence c'est que pour Platon, au-delà de il est, il y a le bien. Il y a là. Et donc, l'opposition entre il est et le devenir n'est plus aussi farouche puisqu'elle est dépassée. Si l'opposition entre il est et le devenir est dépassée par le bien et l'un, il y a donc possibilité. Ça, c'est la découverte de Platon. La découverte de Platon, c'est de relativiser l'opposition entre est et devenir. À sa manière, hein, parce que Aristote le fera d'une façon tout à fait différente. Mais à sa manière, c'est de relativiser cette opposition pour essayer de découvrir quelque chose qui est au-delà des deux. Si le bien est au-delà de l'ousia, l'ousia, c'est au niveau de ce qui est, si le bien est au-delà de la substance va dépendre de l'un. Ainsi, c'est la Genesis. Donc, tous les deux sont relatifs au bien. Tous les deux sont relatifs à l'un. On va donc pouvoir poser le problème de l'origine de l'être. Par le point de vue du bien, par le problème de l'un. Fallait le dépassement de cette opposition entre être et devenir pour découvrir une possibilité de se poser le problème, quelle est la relation entre l'être et le devenir. Et c'est bien de cette manière-là que le Timée pose le problème, si vous regardez attentivement. Parce que vous voyez que tout de suite, Platon reprend la division entre l'être éternel, il est ce qui ne devient pas, et ce qui devient. Alors comment expliquer le passage entre les deux, il faut donc expliquer par un fatchiré, une création, qui sera vue d'une façon artistique. Et c'est ça qui est intéressant à voir. C'est que la première ébauche du problème de la création au niveau philosophique est vue dans une perspective artistique. Le démiurge, c'est le grand artiste. Le grand artiste qui contemple un modèle, qui contemple les formes idéales, et à partir de cette contemplation des formes idéales, il va réaliser l'image sur le modèle des formes idéales. On voit comment on peut arriver à préciser comment les formes idéales servant de modèle donc restent toujours les mêmes, ne sont pas abîmées par la création. Le démiurge, quel est son lien avec les formes idéales, ça, Platon ne précise pas très très bien. Il est lié, le démiurge, à nécessairement le nous, puisqu'il regarde les formes idéales. Et en regardant les formes idéales, il les contemple, il peut les réaliser ensuite. Et ces formes idéales sont reliées au bien. Mais le bien est au-delà, et le démiurge, ce n'est pas le bien. Alors voilà, c'est là la difficulté qu'on va essayer de comprendre dans la perspective du Timée. Le démiurge n'est pas le bien, il n'est pas l'un. Le bien et l'un agissent uniquement par le point de vue de l'attraction. Tandis que le démiurge agit par le point de vue d'une cause efficiente, par le point de vue de l'agir, du facere. Il fait, il crée. Alors voyez la distinction qui va se faire entre la causalité efficiente, si j'analyse le problème du timé, en essayant de comprendre ce qui est impliqué dedans. Le démiurge, donc le démiurge, celui qui va faire, qui va travailler. Le démiurge, cause efficiente. Le bien, cause finale, ainsi que l'un. Et le modèle, dans un sens que je dis qu'il y a bien le point de vue de la causalité artistique, le modèle que contemple le démiurge. Ce modèle est suspendu et dépendant du bien, c'est évident, mais il n'est pas le bien. Ce n'est pas la contemplation du bien qui permet de réaliser le monde. Très cru. Parce que la contemplation du bien ne me fait pas du tout opérer. Ça me fait contempler. Je contemple, je vis et tout. Quand je contemple, je veux connaître, je veux être uni au bien, je veux être dans... Mais ça ne me fait pas. Alors c'est ça qui est très intéressant. C'est la nécessité de poser quelque chose qui est intermédiaire entre le bien et l'univers, l'univers qui est un univers en devenir, mon univers physique, de poser un intermédiaire entre les deux, parce que la contemplation du bien n'explique pas la création de l'univers. Il faut quelque chose d'autre, alors c'est ce démiurge, qui lui va contempler un modèle, les formes idéales. Et à partir de ça, évidemment ce modèle est lié au bien, mais il n'est pas le bien. C'est toute la perspective platonicienne, les formes en soi ne sont pas le bien. Le bien est au-delà de la forme. Le bien est au-delà de la forme parce que justement le bien possède en lui cet absolu que j'ai découvert, que j'ai posé, qui fait que je ne peux que le contempler. Et il n'agit pas directement. Donc c'est le démiurge qui va agir en contemplant le modèle et qui va réaliser un univers le plus parfait possible. Mais un univers qui restera dans le devenir à cause de la matière. Tandis que dans les formes idéales qui sont le modèle, la matière ne pénètre pas. Alors voyez, là, vous avez les diverses causalités qui interviennent. Et c'est la première ébauche de la création. De la création au plan philosophique. On n'est plus dans l'ordre du mythe. La recherche des causes. La recherche des causes, c'est d'essayer d'analyser. Alors vous avez là la première ébauche du problème de la création. Intéressante, parce qu'elle est selon un mode artistique. Et je crois ça très important. Parce que la création doit se comprendre selon un mode artistique. C'est évident que c'est le point de vue artistique qui est premier. Mais alors, un art divin. Alors vous avez cause exemplaire, cause finale, cause efficiente, cause formelle. Puisque dans le modèle, vous avez une forme. En soi, et ici vous avez les formes dans la matière. Vous avez l'imitation. L'imitation de ces formes dans la matière, et qui sont l'univers. Et dès que ces formes sont dans l'univers, elles impliquent un devenir. Vous voyez, tous les détails du timé, c'est secondaire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre, de penser, d'essayer de comprendre ce passage de l'être au devenir. Et ça, c'est vraiment le premier effort qu'on fait, de voir le passage de l'être et du venir par le point de vue du bien. Il fallait donc d'abord découvrir le bien et l'un au-delà de l'être, pour pouvoir saisir un intermédiaire, un métaxu, un intermédiaire. Le démiurge est entre les deux. Il est lié aux formes idéales, donc il n'a plus que nous, c'est évident. Le nous, c'est pas le bien. Le nous, c'est lié aux formes idéales, aux formes intelligentes. Il fallait donc que l'intelligence du démiurge soit capable de contempler le modèle des formes en soi, pour réaliser ensuite
dans l'univers à partir d'une matière. Alors la matière, c'est la cause et l'effet. Ce mot si beau de matière, c'est la cause errante, c'est le hasard. La manière de Mono, c'est ça, c'est le hasard. C'est très vrai. Dès que la matière existe, le hasard existe. Parce que c'est la cause errante. C'est une cause qui n'est jamais totalement dominée. Donc c'est une cause à laquelle la nécessité ne peut plus exister. Et vous tombez dans le contagion. Vous tombez dans les choses qui ça peut faillir. Alors, pour expliquer que notre univers est un univers de devenir, il faut poser cette cause errante. Cette cause errante, elle est au-delà du démiurge. Parce que cette cause errante n'est pas causée. Cette cause errante échappe. Donc il y a une espèce de nécessité qui vient du bas, qui vient de la matière, qui est autre que la nécessité du bien et de l'un. Vous avez donc deux extrêmes dans cette perspective du dîmé, deux extrêmes au-delà du démiurge, le bien, l'un et la matière. Alors vous voyez par le fait même que le démiurge qui réalise l'univers au sens tout à fait propre ne fait que composer. Et c'est pour ça que c'est l'analogie de l'art qui demeure. Platon n'a pas été assez loin dans la purification de l'analogie de l'art. En réalité, ce démiurge, il travaille comme un homme qui a une matière devant lui et qu'il transforme cette matière. Et il transforme cette matière en fonction d'un modèle. Il a un modèle, il a une vision des choses parfaites, un idéal qu'il porte en lui. Cet idéal qui porte en lui, c'est le modèle qui porte en lui, sont ses formes, il les applique. Et donc c'est uniquement une composition. La création demeure une activité artistique où j'essaie de faire une sorte d'imitation la plus parfaite qui soit par rapport au modèle. Mais les deux extrêmes demeurent. Donc le démiurge, c'est un mi-dieu. Parce qu'il est devant deux nécessités qui s'imposent à lui. La nécessité du bien et de l'un et la nécessité de la matière. Et donc il n'est pas véritablement un dieu, il est un artisan divin. Il n'est pas un dieu. Et notre univers dépend de cet artisan. Il n'est pas rattaché directement au dieu suprême. Le dieu suprême, hein, le point de vue du bien et de l'un, Plotin dira le bien-être, c'est Zeus, c'est le Dieu suprême. Platon ne dit pas, respect pour Zeus, n'est-ce pas? Mais il ne le dit pas, tandis que Plotin le dira, que c'est Zeus. Donc le Dieu suprême échappe. Il est au-delà de la création. La création ne provient pas du Dieu suprême. Ce qui va expliquer comment dans le néoplatonisme, on va mettre des intermédiaires. Oui. Parce qu'on a une vision de la création qui ne se rattache pas directement à l'absolu, et donc ça qui ne va pas jusqu'au bout. Les deux extrêmes échappent à la création. Si les deux extrêmes échappent à la création, les mythes religieux de la création ne sont pas expliqués. Oui. L'explication de Platon n'est pas une explication du mythe religieux. C'est une fabrication très ingénieuse, très artistique. Et elle n'est pas au sens strict philosophique. Parce qu'il n'explique pas vraiment le mythe religieux de la création. Le mythe religieux de la création rattache toute chose à un absolu et à un premier. Tandis que Platon ne rattache pas toute chose au bien et à l'un, il le rattache au démiurge. Alors, quel lien y a-t-il entre le démiurge et le bien? C'est ça qui est intéressant. C'est pas rattaché. Le bien et l'un sont au-delà, et la matière est au-delà. Donc, pratiquement, l'explication de Platon n'est pas suffisante. Elle est momentanée, elle est intéressante parce qu'elle est première. Tout l'intérêt du Timé, c'est parce qu'on est en face du premier récit philosophique de la création. Je crois que ça, c'est très important. Le Timé doit rester pour nous quelque chose d'impressionnant comme premier essai d'expliquer la création. Mais ça échoue. Et ça échoue par les deux extrêmes. C'est...
fond au niveau de la forme. C'est l'activité artistique, c'est la composition, c'est pas la création. La matière est irréductible. Et si la matière est cause errante et irréductible, il y aura quelque chose qui restera une nécessité par le bas, la nécessité du hasard. Vous voyez, la nécessité du hasard, c'est la cause errante. Je suis en face de quelque chose que je n'expliquerai pas, devant lequel je me trouverai toujours en face d'un absolu, mystérieux, incompréhensible, qui sera la matière. Et ceci reste jusqu'au bout du mur. Donc le dit mieux, je n'ai pas Dieu. Ce qui n'est pas l'absolu dernier. Il est divin, mais il n'est pas le Dieu absolu. Le Dieu absolu, c'est Zeus, c'est au niveau du bien et de l'âme. Face à ça, nous aurons la grande critique qu'Aristote donnera du Timé dans le Decello. Ça, c'est très intéressant aussi de voir la manière dont Aristote va attaquer la grande vision de Platon du Timé. À la manière aristotélicienne. Et je dis tout de suite, Aristote n'a pas donné de vision philosophique de la création. Il a fait la critique de Platon. S'il a fait la critique de Platon, c'est qu'au fond, il avait quand même le désir d'essayer d'expliquer autre chose à la place. Quand on critique quelqu'un, on veut mettre quelque chose à la place. Alors, est-ce qu'Aristote l'a donné dans le livre du Peri Touteou, le livre sur Dieu, ce qui est très possible, parce que c'est disparu, ce livre sur Dieu. Nous ne l'avons pas. De fait, pour Aristote, la création devait commencer par Dieu. Non pas le démiurge. Alors, c'est possible. Alors, quelle est la critique d'Aristote par rapport au Timé? C'est que, pour Aristote, la création doit être au niveau de l'être, et non pas au niveau de la forme. Je crois que toute la critique d'Aristote porte là-dessus. Si je parle de création, je parle d'un être qui apparaît d'une manière absolue. Aristote dira qu'on peut parler de l'être et du non-être, l'être et le non-être, de deux manières tout à fait différentes. De plusieurs manières, mais de deux manières tout à fait différentes. Autrement dit, tout de suite, la conception d'Aristote va être une conception de l'être pris d'une façon tout à fait différente, ce n'est plus absolu, puisque je vais parler de l'opposition de l'être et du non-être de deux manières différentes. Je peux parler de l'être et du non-être d'une façon relative et d'une façon absolue. À plus. Je crois que tout est là. C'est là où Aristote vraiment va montrer que ce que dit Platon n'est pas le vrai problème de la création. La création ne peut pas être au niveau de la forme. La création doit atteindre même la matière.